Shalom Ouvracha, Boker Tov et Koulam. Et voilà, on est de retour le Yom Revi'i. Et Yom Revi'i, comme toutes les semaines, eh bien, nous retrouvons notre immersion dans la Parashat à Shavua. Parashat Vayera, Rabotai. Parashat Vayera. Alors, on est toujours évidemment dans les histoires d'Abraham Avinu. La semaine dernière, dans la Parashat Lech Lecha, on a commencé à nous présenter le bonhomme et on a vu quel était le projet divin. Le projet divin de créer une identité nationale, de faire d'Abraham le père d'une nation et non pas le fondateur d'une religion. Abraham, en tant que père de nation, se doit d'avoir une terre et une descendance. C'était le propos de notre étude de la semaine dernière. Le problème, c'est que ici, dans notre parashat Vayera, alors que ça y est, à la fin de la paracha de l'Erlecha, on n'a pas pu étudier ensemble toute la paracha, mais vous l'avez lu évidemment, eh bien, Dieu va officiellement, clairement, annoncer à Sarah, à Abraham, qu'il va avoir un enfant. Zéo. C'est-à-dire que lorsque finalement, eh bien, Abraham a un fils de 13 ans, il lui fait la brit mila, eh bien, Dieu lui dit, non mais t'inquiète pas, je t'ai dit que Sarah aurait un enfant, et c'est par lui que la promesse va se réaliser. Tout le propos de la paracha de Vayera va être le passage de Abraham de son état de père d'Ishmaël à l'état de père de Yitzhak. Tout le propos de la paracha d'Abraham va être de passer de celui qui connaît Dieu en tant que Midat HaChesed à celui qui connaît Dieu en tant que Midat Adin. En d'autres termes, ma fille est folle. Ma fille est la dernière qui n'est pas encore retournée à l'école. Et de jour en jour, son cerveau, ses capacités mentales chutent, diminuent. Je lance un appel à Dieu. Dieu, enlève le corona. Pour que les écoles, à partir des kitot, hey, vav, zain, chet, tet, yud, yud, alef, yud, bet, puissent enfin retourner véritablement à l'école. Il en va de la santé mentale de ma chère et tendre fille aînée, qui, du haut de ses 12 ans et demi, et du haut de ses zooms avec l'école, eh bien, n'en peut plus, et donc est en train de, comment dire, eh bien, avoir un QI qui est en train de s'approcher de moins 5. Donc, Ribono Shel Olam, si tu entends ma prière, je t'en prie, ramène ma fille à l'école, qu'elle puisse enfin de nouveau utiliser ses capacités cognitives, ses capacités mentales, car pour le moment, les amis, ça fait peur à voir. Voilà, une fois que ça c'est dit, elle va continuer à m'embêter pendant mon cours, mais c'est pas grave, c'est Mayesh, on l'aime quand même. On les aime quand même, nos enfants. Même quand ils nous tapent sur le système. Demande plus qu'ils... Ah, tu dis refiler le gouvernement, refiler la sagesse au gouvernement sera plus simple. Pas sûr. Pas sûr que ce soit plus simple. Quoi qu'il en soit, Rabotai, nous sommes donc dans le Parashat Vayera et Vayera. C'est le moment où Abraham passe de Midat à Chesed ou Midat à Din. Toute la paracha va être... tout simplement une bête sefer, on parlait de ça, pour Abraham, pour qu'il intègre cette dimension de Midat Adin qui doit être le deuxième pilier pour réaliser l'aventure du peuple d'Israël. Alors allons-y. Oh Dieu, aide-nous, Ribono Shel Olam. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ah là 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 là, la vie est dure. La vie est dure. Baruch Hashem, ishtabar shemo la'ad. Vayera elav. Alors, on y va. On est rentré en immersion maintenant dans notre paracha. Et là, je tiens à ce que les choses soient bien claires. La première paracha commence par une évidence. Vayera elav Hashem be'elone mamre ve'u yoshev petach ha'ohel kechom hayom. La paracha commence et pour une fois, je sais à quelle heure elle commence. Puisque la paracha commence chez Abraham Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom, c'est-à-dire au moment le plus chaud de la journée, derrière nous, midi. C'est midi. C'est-à-dire que toute la paracha va se passer l'après-midi. En d'autres termes, c'est une névoie de l'après-midi. Quel rapport ? Eh bien, l'après-midi, c'est Midat Hadin. Je m'explique. Le matin, vous savez, le matin, quand on a reçu la vie, on s'est réveillé ce matin, on n'a rien fait pour se réveiller. En d'autres termes, on reçoit la vie Bematana. On la reçoit en cadeau. C'est complètement Midat Hesed, la vie qu'on reçoit le matin. L'après-midi, il faut qu'on rende des comptes sur la vie qu'on a reçue en cadeau le matin. Attends, j'y viens, deux secondes, oulala. Ramban, deux secondes, l'adlade. Bekitsour, l'après-midi, c'est donc le moment où on doit rendre des comptes par rapport, eh bien, à la vie qu'on a reçue le matin. Donc, rien d'étonnant à ce que le matin, ce soit la façon d'entrevoir le dévoilement de Dieu parmi Data Chesed, c'est donc Tfilat Shacharit de Avraham Avinu. C'est-à-dire, Shacharit, c'est le moment où j'ai encore rien fait. Tfilat Mincha, Mincha Shel Ben Arbaim, qui vient conclure la journée, Tfilat Mincha Shel Yitzhak, parce que c'est lui qui va être, par excellence, l'homme de Midat Hadin, de la rigueur, de la justice. En d'autres termes, Avraham Avinu doit commencer son immersion dans la Yitzhakitude, dans Midat Hadin. N'oubliez pas qu'Avraham Avinu doit faire ses deux piliers, l'Eman Yitzaveh et Banav et Beto Acharav, on verra plus tard dans la paracha, l'Alechet Bederech Hashem, l'Asot Tzedaka ou Mishpat. Et Tzedaka, Chesed et Mishpat Din. Et donc, la paracha s'ouvre sur l'après-midi pour que tu saches que c'est bel et bien de cela qu'on parle. Et évidemment, la paracha arrive avec cette fameuse histoire que vous connaissez bien. Abraham vient de faire la Brit Mila. Abraham, au bout de 3 jours, est triste. Il n'y a pas de Orchim, il n'y a pas d'invité. Dieu avait fait en sorte qu'il n'y ait pas d'invité. Pourquoi ? Parce qu'il est malade. Enfin, il est convalescent de la Brit Mila. C'est pas évident. Et donc, il a fait en sorte au Tzichama Minartika, il faisait très chaud. Comme ça, il n'y avait pas de visiteurs. Mais Abraham, qui veut faire Arnasat Orchim, c'est quel Mida ? C'est Mida Ta Chesed. Donc, Abraham est toujours dans son idéal de Chesed. Comme Abraham est quand même un chouchou de Dieu, eh bien, Dieu lui dit, bon, yala, on va t'envoyer des Orchim quand même. Et il envoie la fameuse Shlosha Anashim. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le texte. Veine Shlosha Anashim. Sauf que quand on dit ça en français, tout de suite, les gens, ils connaissent l'histoire des 3 anges qui sont venus chez Abraham. Est-ce qu'il s'agit d'anges ou est-ce qu'il s'agit d'Abraham qui est en train de rêver? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est concrètement des bonhommes qui sont arrivés chez Abraham ou est-ce que Abraham est en train de prophétiser? Cette machloquette est la machloquette une des plus violentes entre le Rambam et le Ramban, effectivement. Alors que le Rambam nous dit « Vayera Elav Hashem », Dieu s'est dévoilé à lui, c'est le point de départ d'une névoie, d'une prophétie. Comment ce « Vayera Elav Hashem » se dévoile à Abraham ? Veineh Shlosha Malachim. Shlosha Anashim, qui en fait sont des malachim. C'est-à-dire, ce sont 3 idéaux des anges qui se dévoilent à Abraham. Pour le Rambam, toute l'histoire qui nous est racontée ici, machin, toute l'histoire, pour le Rambam, toute l'histoire qui vient, ils disent à Sarah, pourquoi t'arrives, pourquoi t'as Paris, toute l'histoire se passe bémaré à névoie. Se passe dans la prophétie qu'Abraham reçoit. Or, Abraham reçoit la prophétie quand il dort. C'est-à-dire que pour le Rambam, si toi, tu avais été là à ce moment-là et que tu avais une caméra, qu'est-ce que tu aurais filmé ? Tu aurais filmé un vieux monsieur qui fait dodo. C'est tout ce que tu aurais vu dans toute l'histoire, jusqu'au moment où il se réveille après le fait qu'on lui a parlé de la destruction de Sodome, tout ça, machin. D'après le Rambam, tout se passe bemaré à névoie, dans l'esprit prophétique d'Abraham. Bon, la malo vient le Ramban et dit « Je ne suis pas d'accord. Bon, vous allez me dire, c'est pas la première fois que le Ramban ne sera pas d'accord avec le Ramban. Ça, c'est pas un chidouche. Il nous dit le Ramban, Mapitom, Mapitom, n'importe quoi de dire ça. C'est absolument pas des malachim, c'est absolument Shloshan, Nashim, et ça s'est passé concrètement, et ils étaient là, et si toi t'avais été là et que t'avais filmé, t'aurais vu trois mecs qui arrivent, et Abraham qui donne à manger, tout ça, machin. Bon, Machloket, Rambam, Rambam, pas de problème. Sauf que, pour la première et seule fois de tout le commentaire du Rambam, Ramban, il va non seulement être en désaccord avec le Rambam, Maïmonide, mais il va dire Ve'asur l'amin bedivre a Rambam. C'est non seulement le Rambam il dit qu'il n'est pas d'accord, mais en plus il dit Asur l'amin. On n'a pas le droit de croire à ce que dit le Rambam. Eh ben, ma karacham. Eh bien, il faut bien comprendre une chose, et là je fais une digression qui n'est pas de notre paracham, mais qui est fondamentale. La digression est la suivante. Les rabbanim, depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'ils ont quelque chose à dire, vont évidemment adapter leur message en fonction de l'endroit, de l'identité qui reçoit le message et du moment. Il est évident que le rabbin ne parle pas pareil là ou là ou là-bas. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. La Torah orale, la Torah Shebealpé, l'enseignement des Chachamim de génération en génération, l'enseignement des Rabbanim de génération en génération est évidemment influencé par l'endroit et le moment. Et c'est le propre de la Halakha. La Halakha, Torah orale, Yolechet. Elle avance et elle va évidemment changer en fonction de l'endroit et du moment. Je vous donne un exemple volontairement extrême. Est-ce que c'est permis, d'après le judaïsme, de tuer quelqu'un? La réponse est, ça dépend. Ça dépend. Ça veut dire quoi, ça dépend? Ça veut dire quoi, ça dépend? Eh bien, si il est dans la rue et sa tête ne me revient pas, c'est un sourd. Bien sûr. S'il est en train de courir vers moi avec un couteau et en train de proférer des incantations en arabe et il me dit « sale juif, je vais te tuer », alors oui, c'est moutard. C'est permis à ce moment-là de me défendre ma vie et de le tuer avant qu'il me tue. Et si jamais c'est quelqu'un qui a été condamné à mort par le Sanhedrin, et qu'il est chayav mita, et que le tribunal rabbinique va le mettre à mort, chose qui n'est jamais arrivée d'après la halakha, eh bien, à ce moment-là, théoriquement, c'est une mitzvah. Donc, c'est-à-dire que tuer quelqu'un, ça dépend. Évidemment que dans 90% des cas, c'est badaï que c'est interdit. Mais ça dépend. Donc, la situation, le moment, l'endroit, tout va influencer l'enseignement de nos chachamim. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le Rambam... Parce que le Rambam, il vit en Égypte. Sous l'influence de certains musulmans, le Rambam n'est pas tellement préoccupé par l'ambiance dans laquelle il vit. Il sait qu'il n'y a pas de danger à dire ce qu'il va dire. Et donc, le Rambam va tout simplement nous enseigner. Attendez voir deux secondes. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Oui. Efshar, ou la Elafsik, Bevakasha. Et Mounagam? Dai? Non, j'ai. Bevakasha, dai. Bekitsour, le Rambam n'est pas du tout influencé à ce niveau-là par l'ambiance environnante. Et donc il nous dit, bah oui, le dévoilement de Dieu, ça passe par trois esprits, qui sont Raphaël, Gabriel et Michael. Et donc c'est bon, tout va bien. Le Ramban habite à Barcelone. Il habite à Barcelone en pleine domination de l'Inquisition chrétienne. Et donc il dit, mais tu te rends pas compte du danger d'entendre un rabbin qui dit, c'est quoi le dévoilement de Dieu? C'est trois esprits? Mais enfin, tu dis une phrase comme ça dans un monde chrétien. Mais c'est de l'eau au moulin, du pain béni, ce que tu veux, pour la Trinité chrétienne. Donc le Rambam, il dit « Assour, la Amin bedivra Rambam ». Alors que c'est très certainement le Rambam qui a raison. C'est très certainement le Rambam qui a raison à la Halema Asé. Mais en mala asot. Moi, je suis Ramban, j'ai une responsabilité dans la transmission de la Torah dans ma génération. Donc je ne peux pas laisser les gens de ma génération entendre ce que dit le Rambam. Et il faut bien comprendre qu'il va y avoir un enseignement qui sort du Ramban, un enseignement qui sort du Rambam. Mais la Koltov. Un autre exemple, dans notre fameuse paracha, Abraham va donner à manger à ses trois anges. On nous dit là-bas quelles sont les matières premières. On nous dit qu'il a utilisé de la viande, qu'il a utilisé du beurre, mais on n'a pas exactement la recette. Quelle est la recette d'Abraham ? Ben, c'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah, mais Rashi va reprendre un enseignement de nos sages qui dit qu'il leur a donné des langues à la moutarde. Langues à la moutarde ? Quoi, Rashi avait vu le livre de recettes de Sarah ? Ça pose un problème parce que les grains de moutarde ne sont pas présents en Eretz Israël à l'époque d'Abraham. Que faire ? Alors quoi, Rashi ment ? Pas du tout. Mais déjà à l'époque du 6e siècle, donc de la fin du Talmud, et à l'époque de Rashi encore plus, le plat officiel des rois de France en France, c'est la langue à la moutarde. Et donc quand Rashi te dit qu'Abraham il leur a fait de la langue à la moutarde, on s'en fiche de savoir s'il leur a fait de la langue ou pas. Il relote que non. Mais il leur a fait un plat de roi. Et donc, dites-vous bien que lorsqu'on veut comprendre l'enseignement de nos sages, il est fondamental de replacer le dit sage dans son contexte historique, dans son contexte sociétal, où il est, à qui il parle, et comme ça, tu peux comprendre ce qu'il a à dire. C'est pour ça que la Torah orale, elle est orale. À partir du moment où tu mets la Torah orale par écrit, eh ben, tu as un grand problème parce que tu ne sais plus le contexte. Et comme tu connais plus le contexte, bah tu prends la phrase comme argent comptant, alors que des fois, le contexte va justement te la faire comprendre autrement. Par exemple, si je te dis, si tu vois un... On va prendre des clichés, des grands clichés, d'accord ? Mais si tu vois un homme de couleur noire qui arrive dans des quartiers... population de majorité afro-américaine, africaine, ce que tu veux. Et que la personne en question, qui lui aussi vient de cette même société, de cette même communauté ethnique, eh bien, elle vient et elle dit « Comment ça va, négro ?» Bah, il va rien lui arriver. Parce que tout le monde va comprendre que c'est de l'autodérision et qu'il se moque de lui-même, de tout le monde. On est entre nous, on est entre copains. Mais si d'un autre côté arrive quelqu'un de couleur blanche qui va arriver dans cette même communauté et qui dit « Alors, négro, il y a de fortes raisons, de fortes chances que la personne passe un sale quart d'heure. » Ben oui, ben c'est comme ça. Parce que tu comprends bien que c'est pas l'ambiance. Donc, toute parole doit être remise dans son contexte. C'est évident. Tant au niveau temporel qu'au niveau spatial, qu'au niveau de qui parle, c'est une évidence. Ici, la névoie est donc la névoie de l'après-midi. Et vous la connaissez, cette névoie. Que viennent nous dire les malachim ? Eh bien, ils viennent annoncer particulièrement, alors il y en a un qui vient guérir Abraham de la Mila, il y en a un qui va annoncer la destruction de Sodome, et il y en a un qui va annoncer la naissance de Yitzhak. Et là, vous connaissez tous l'histoire. Lorsqu'il annonce la naissance de Yitzhak, Sarah qui entend ça, elle a un problème. Hein ? Ah, pour le Rambam, la question que tu poses, comment on sait pour le Rambam quand est-ce que c'est un rêve ou pas ? C'est pas compliqué. Le Rambam, à chaque fois qu'il y a marqué Vaïra, Ela, Vachem, Zenevoa. C'est-à-dire, pour Abraham, un dodo. Un chalom. Ok ? Mais c'est pas grave, on s'en fiche que ce soit Bachalom ou pas Bachalom. Le texte nous envoie l'information, donc pour nous, qu'elle soit Bachalom en tant que prophétie, ou réalisé dans les faits, ça a exactement la même valeur pour nous. Mais Kitsour, lorsque Sarah entend ça, eh ben, qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, la Torah nous dit tout de suite. Va-t-il Tzrak? Sarah Bekirba. Bevedai. מה זאת אומרת? ותתרק שרה בקרבה לבוא, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן, ובאמת. שויג'ה בינו פוזה, כמו שפורה עבור הנופון, ובאמת, זה לא פוסיבל. Et la question qu'on doit se poser, c'est quoi? Sarah, elle ne croit pas à la capacité d'Akadosh Baruch Hu de faire des miracles? Serait-ce ici un manque de Emouna de la part de Sarah Imenu à Kedosha? Eh bien, Manitou, le Rav Ashkenazi, avait répondu à cela en disant de manière très simple. Ce n'est absolument pas un manque de Emouna. Pourquoi? Car toute première question est légitime. Toute question qui arrive pour la première fois est légitime. Or, il n'y a jamais eu pour le moment de miracle, c'est-à-dire chamboulement des lois de la nature, effectué par Dieu, dont un homme a été témoin. Donc l'homme n'est pas censé savoir que Dieu fait des miracles, c'est-à-dire que Dieu chamboule les lois de la nature. Je suis en train d'en parler. Voilà. Attends avant de poser des questions, comme ça tu auras la réponse avant de poser la question. Mais Kitsour, Sarah ne doute pas. Elle n'est juste pas censée savoir qu'il y a des miracles. La création du monde était évidemment un miracle, mais il n'y avait pas de témoin. Et donc voilà, donc personne ne peut parler de la création du monde. Tu vas me dire, le déluge c'est un miracle. Badaï, chamboulement des lois de la nature, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le déluge, personne ne l'a vu. Tous ceux qui l'ont vu, ils sont morts, ils ne peuvent pas raconter. Et Noach, qui a survécu au déluge, il était dans la boîte. Il n'a pas vu le déluge. Donc, dans la mesure où personne n'a vu le miracle, personne ne peut raconter, personne ne peut transmettre que Dieu fait des miracles. Et si vous me dites, mais non, mais il a été jeté dans la fournaise d'Abraham et il a survécu, je parle de miracles alpia pshat et non pas des miracles alpia midrash. D'après le texte de la Torah, on n'a encore jamais vu de miracle. Donc Sarah, qui te dit, je suis ménopausée, c'est important de savoir ça. C'est-à-dire, je ne peux pas naturellement avoir d'enfant. Et bien elle dit, voilà, c'est pas possible. Et regardez la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Vayomer Hashem al Avraham, lama zet tzachaka Sarah, lemor afom namelet vadi zakanti. Haipalem Hashem davar, lamoed ashuv elecha kaetcha ou Sarah ben. Dieu dit, pourquoi Sarah elle a dit, je ne peux pas avoir d'enfant? Veani zakanti. Et moi, je ne suis pas capable de faire des miracles. Et donc, vatekachesh Sarah lemor. Sarah elle a dit, lo tzachakti. Alors, Sarah, c'est une menteuse maintenant. Il y a deux secondes, on a dit que c'était quelqu'un qui n'avait pas de Emouna. Et maintenant, on dit que c'est une menteuse. Elle a ri ou elle n'a pas ri? Elle a ri ou elle n'a pas ri? Ah, pourquoi Abraham est serein et Sarah est sceptique? C'est pas une question de névoi, mon ami. Comme j'ai expliqué, c'est une question de Teva. Or, Abraham, peut-être qu'il peut encore avoir des enfants. Je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Abraham, il a eu Ishmael. Donc, Abraham, il est possible que, naturellement parlant, il peut avoir des enfants. Donc, quand on lui dit, tu vas avoir un fils, il est choliot. Mais Sarah, elle te dit clairement, j'ai pu mes règles, donc je ne peux plus avoir d'enfants. Pas chou, ce n'est pas une question de névoie, c'est une question de connaissance du monde. Mais qui te sourd, Sarah, elle arrive ou elle a pari? Il y a marqué, vas-tu te frac, Sarah? Et l'autre, elle dit, l'autre s'arrête. Qui a raison? Barour que la Torah, elle ment pas. Et barour que Sarah, il met nous, elle ment pas. Donc quoi? Il oyada chez Itzachaka. Sarah, elle ne sait pas qu'elle a ri. Regardez ce que Dieu lui répond. Va te garer, Sarah, les morts, l'autre s'arrête qui a rien. Et Omer, l'eau qui t'arrête. Dieu lui dit, non, tu as ri. Qu'est-ce que ça veut dire? Abotaï. Sarah, elle a pari. Ou du moins, elle ne savait pas qu'elle avait ri. Oui, ça ne se dit pas, ce n'est pas très français. Sarah ne rit pas qui y a réa, car elle est pleine de crainte. Quand elle entend que Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas avoir un fils, tu ne te rends pas compte de la crainte, parce qu'elle est totalement la Emouna, et elle est complètement dans la prophétie. Mais elle ne comprend pas comment c'est possible. Ça contredit tellement tout, je ne suis pas prête. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as tout d'un coup, tu fais face à une situation qui te prend complètement au dépourvu. Et bien, quand on te prend complètement au dépourvu, ton corps, il a un mécanisme de réaction, c'est hop, le rire. En hébreu, se dit tzrok. Tzrok, ça veut dire tzrok. Yotze minachok. C'est-à-dire, ça sort des limites. Je vois quelqu'un tomber sur une, glisser sur une peau de banane, j'étais pas prêt, ça fait rire. C'est pas que je suis méchant. J'étais pas prêt. Au moment où Dieu annonce à Sarah et à Abraham que Yitzhak va naître, qu'est-ce qui se passe? La neshama de Yitzhak commence à descendre. Et ça traverse Sarah, ça chatouille. Elle rit, mais elle ne le sait pas. Parce que vat Yitzhak Sarah bekirba. C'est au plus profond de sa neshama qu'elle a ri. Elle s'en est même pas rendue compte. Donc Dieu lui révèle, non, tu as ri. C'est bien que tu aies ri. Parce que Yitzhak, c'est le propre de cette névoie-là. Yitzhak, on a dit, c'est Midat Hadin. Mais Yitzhak, vous avez remarqué que son nom est au futur. Parce que Behemet, à Olam Hazeh, ce monde-ci, il n'est pas drôle. Il y a plein de problèmes dans ce monde. Donc il n'est pas drôle. Nachon, il n'est pas drôle. Aval, d'un autre côté, tu sais que il sera drôle. On dit, il rira bien qu'il rira le dernier. Mais c'est qui le dernier qui va rire? C'est Akadosh Baruch Hu, dit la Gemara. Que Akadosh Baruch Hu, Yitzhak, l'Atid Lavo. En d'autres termes, pour l'instant, Aolam Lo Matzrik, mais où Yitzhak. C'est-à-dire que si je suis capable d'entrevoir l'avenir, c'est-à-dire la finalité de l'idéal, alors le rire devient quelque chose de fondamental. C'est la raison pour laquelle nous dit la Gemara que qui sont ceux qui sont bénés à Olam Abba ? Eh bien, on nous raconte que ce sont les Badranim, ceux qui se baladent de ville en ville et qui rendent le sourire à ceux qui sont tristes. Pourquoi ? Parce que leur sourire, ils le puisent d'Aolam Abba et l'Oba Olam Azé. En d'autres termes, Sarah n'a absolument aucun manque de Emouna. Dieu va dévoiler au monde qu'il fait des miracles. C'est quelque chose d'énorme. Dieu qui fait des miracles, c'est Alpia Chesed ou Alpia Din? Eh bien, c'est l'O Alpia Chesed velo Alpia Din. C'est Alpia Rachamim. Les miracles sont, si vous voulez, le piquar nefesh. Les miracles, comme dit le Ramban dans le début de son explication du livre de Shemot, c'est pas bien. Le miracle vient chambouler le monde que Dieu a créé. Si on peut s'en passer, c'est mieux. Mais des fois, Dieu, il n'a pas le choix. Et pour la réalisation de l'histoire, il fait un miracle. Vous remarquerez que, et là on commence avec la première, mais nos trois matriarches, Sarah, Rivka, Léa et Rachel, seront stériles. Pourquoi elles seront stériles ? Dit le Maharal de Prague, pour que tu comprennes que le peuple d'Israël, dans son essence, il est au-delà de la nature. Et ça, c'est Midat Hadin. Parce que la nature a été créée par le dévoilement de Dieu qui s'appelle Elohim, Midat Hadin. Israël a précédé la création du monde. Les lames d'Israël a précédé la création du monde. Donc, c'est au-delà de Midat Hadin. Et donc, tout à fait normal que pour arriver à la création d'Israël, par rapport à, enfin, grâce à Yitzhak, eh bien, on a besoin de montrer le monde du din, le monde de la rigueur, de la justice, pour savoir qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Voilà ce qui pourrait nous faire découvrir, finalement, le début du moment où Abraham, eh bien, se découvre une appartenance à ce monde de la rigueur. Évidemment, on a juste parlé du tout début de la paracha, on n'a pas pu parler de toute la paracha. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. J'invite toutes les personnes qui parlent et comprennent un tout petit peu l'hébreu. Demain, nous aurons la deuxième partie du cours en hébreu qui a commencé la semaine dernière, qui s'appelait « Avraham mi Aravi le Ivri ». Eh bien, demain, nous aurons la deuxième partie du cours où nous terminerons l'épopée d'Abraham et nous essaierons, Bezrat Hashem, de passer sur toute la paracha de Vaera en hébreu. Et donc, vous aurez la suite et les réponses à toutes ces questions. D'ailleurs, on risque de ne pas parler de ce qu'on a parlé maintenant. Maintenant, Baruch, qu'il y a encore plein d'autres choses à dire sur la paracha de Vayera, soit l'année prochaine dans la paracha de Vayera, soit à d'autres occasions, on continuera à parler de cela. Et ne vous en faites pas. En tout cas, à bientôt les amis. Shabbat shalom.